tapis. La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire.
Enseigner, ça c'est très grand pour moi. Transmettre du savoir, continuer à faire de la recherche, à m'interroger sur l'histoire de l'Afrique et à partager mon point de vue, les résultats de mes recherches avec des plus jeunes que moi, les former pour qu'ils me dépassent. Peut-être que mon dernier combat sera un combat pour l'école de la République.
La profession de foi du grand historien Ibrahim Atioub. Si le chercheur est reconnu dans le monde entier pour ses travaux novateurs sur l'esclavage, l'homme n'a jamais trahi son engagement de jeunesse. Il est resté au Sénégal pour servir les intérêts de son pays et de sa famille. Depuis son village natal, nous ferons la route jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, porte de la colonisation française, puis nous monterons jusqu'au fort de Podor pour naviguer sur le fleuve Sénégal à bord du Bou El Mogdad, du nom de interprète et explorateur saint-louisien, pour atteindre enfin la frontière avec la Mauritanie. Ibrahim Atioub à l'école de la réussite, c'est le second épisode de notre documentaire consacré à un historien hors pair avec lequel nous reprenons les routes de l'esclavage.
Elle s'appelle Ami Diop.
Quel genre de petit garçon donc était Ibrahim Atioub?
C'était un bon travailleur à l'école, mais c'était un enfant pas très agité. Mais surtout, il n'avait pas de bagou, quoi. Il était un peu amorphe, un peu tête en l'air.
C'est pas vrai.
Quand arrivait le moment de l'hivernage, Ibrahim ne voulait jamais rentrer. Il voulait rester à Mbour pour aller à l'école. Parce que lui, il n'aimait pas les champs, quoi. Parce qu'il était amorphe, c'était un enfant qui n'aimait pas les champs, quoi.
C'était déjà un intellectuel.
Je n'aimais pas venir ici pour m'occuper des champs. Je préférais rester en ville et à l'école, quoi. Voilà.
Lorsqu'il est devenu docteur en histoire en 1989, Ibrahim Atioub a écrit sur sa thèse la dédicace suivante à mes frères et à mes sœurs qui m'ont laissé leur place à l'école. Le recteur de l'université de Dakar est resté fidèle à l'histoire de sa lignée, dont son grand frère est le garant.
Il s'appelle Ousseynou Ndiaye.
Mangi yuddou 1933.
Né en 1933.
Donc c'est un village qui a été fondé par vos ancêtres, à tous les deux, les frères Atioub.
Serigne
Ibrahim Atioub qui est le fondateur du village.
Manam Cheikh Mouride Lewon.
C'était un Cheikh Mouride.
Diakar, Mam Cheikh Ibrahim Fall.
Et c'était un disciple de Cheikh Ibrahim Fall, le compagnon de Cheikh Amadou Bamba. C'est Cheikh Ibrahim qui l'a amené ici dans le pays. Et il a défriché un vaste terrain. Et il avait un monde très important. Notre père, c'est qui était le superviseur de toute cette communauté, son père. La façon dont il travaillait, c'était d'éduquer les gens. C'était un éducateur pour le travail, avoir des connaissances en islam, une éducation islamique. Ibrahim Atioub donnait les résultats de son travail au nom de Dieu.
Habibou
Tchoubou et Serigne Mor
Tchoubou,
c'est eux qui nous ont éduqués. C'est eux qui nous ont
enseigner.
Nos pères nous ont éduqués et nous avons éduqué nos jeunes frères, dont Ibrahima Thioub, le
recteur. La
tradition familiale, c'est travailler, avoir du courage, ensuite avoir de la dignité. C'est une éducation ininterrompue. Même quand vous devenez adulte majeur, on vous convoque tout le temps en assemblée de famille régulièrement, tous les 1 ou 2 mois, pour rappeler à tout le monde nos obligations, nos devoirs, ce qu'il faut éviter pour garder le droit chemin.
Ibrahima Thioub, nous avons quitté la Nationale 2 pour prendre la piste qui va nous conduire jusqu'à Podor. Lorsque l'on pense à la traite transatlantique, on pense à l'île de Gorée, on pense au port de Saint-Louis, mais on évoque moins souvent l'arrière-pays dans lequel nous sommes en train de nous enfoncer pour aller jusqu'à Podor.
En fait, c'est cet arrière-pays qui a fourni les produits de la traite tels que la gomme, qu'apportaient les populations maures du Brakna comme du Trarza dans des points de traite, des escales où se retrouvait un monde cosmopolite. Le convoi qui arrivait de Saint-Louis, le convoi de navires, de petites jauges qui arrivaient de Saint-Louis, s'arrêtait, payait les droits et taxes qu'on appelait les coutumes, avant d'avoir le droit de commercer ces produits. La gomme, l'or, et quand on remonte plus loin, l'ivoire, mais surtout les esclaves. Et ces esclaves étaient collectés sur le fleuve, mais venaient de l'intérieur du pays, principalement du haut fleuve Sénégal, le Ngalam. La collecte se poursuivait en l'absence des bateaux, pour l'année prochaine qu'on puisse venir les récupérer. Et c'était stocké, entreposé dans le fort, tel que le fort Saint-Joseph, construit au XVIIIe siècle par la France dans le haut fleuve vers Bakel. Donc tout le long du fleuve, c'était donc les escales où se faisait la traite des différents produits, et Podor, où nous nous dirigeons actuellement, était une de ces escales où se retrouvaient populations du Fouta, du Walo, des Maures, du Trarza, du Brakna. Principalement ici, il s'agissait du Brakna. Et donc, nous allons vers ce point de cette escale le long de la vallée du fleuve Sénégal, dans la moyenne vallée du Sénégal.
Du village de Malikunda, nous montons vers le nord. Nous faisons escale à Saint-Louis, puis nous repartons sur Podor, le long du fleuve Sénégal. Il fait déjà nuit, mais nous sommes accueillis à l'auberge du Técrour, comptoir commercial du 19e siècle, où les archives de la maison sont exposées au rez-de-chaussée par le propriétaire, Éric Sylvestre, ce qui n'a pas échappé à Ibrahima Thioub, l'historien-chercheur.
Amadou Charlotte, Carpo, oui, Makode, Mercure, Parquet, Massamba, ouais. Massamba Sina, Rabot, oui, ça c'est les grandes familles de négociants qui viennent s'installer sur les rives du fleuve à Podor. Ouais. Village de Tchoufi, qui est devenu un quartier de Podor.
Qui est le village d'origine hein, de ouais, Podor, oui. Ouais. Et ça a été tracé au cordeau, d'où ouais, le découpage vraiment impeccable.
C'est la haussmannisation.
Oui, oui. Et alors nous, en arrivant, on a vu ici marqué Guillaume Foy. Donc on a donné le nom à la maison en se disant c'est le nom du fondateur.
Et c'est ce Guillaume Foy qui a donné la maison en usufruit à Yacine.
Voilà, le mystère. Le mystère, c'est que Yacine Thioub, oui, on ne sait pas très bien quand. Oui. Hein, parce que lui, c'est en 1956 qu'on lui a concédé le terrain à titre provisoire. Yacine Thioub dispose de l'usufruit de l'immeuble qui dépendait de la succession de Guillaume Foy. On ne sait pas non plus à quel titre elle avait ça. C'est ça la question que je posais. Et après, elle fait donation de l'immeuble au mineur Ibrahima, mais elle le récupère finalement. Et Yacine Tchoub devient propriétaire de la nue propriété le 16 août 1902.
Et ça,
c'est l'enfant sans doute qu'elle l'a eu.
Oui, c'est intéressant de voir que son mari est un gay. Alors, gay et Tchoub, c'est des parents à plaisanterie. Je vais rechercher dans les archives les éléments de reconstitution de l'histoire de Yacine Tchoub pour voir un peu quelle connexion établir avec les Tchoub du Gandjol. Et moi, je suis un descendant des Tchoub du Gandjol. Peut-être qu'elle a à voir avec les Tchoub du Gandjol.
Et l'embarcadère ici s'appelle Yacine Tchoub, l'embarcadère des pirogues qui mènent en Mauritanie. On l'appelle Yacine Tchoub, on l'appelait Yacine Tchoub. Et c'est marrant parce que c'est lié à cette femme. Donc c'est une femme qui avait du prestige ici à Podor.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien comment la colonisation installe ses comptoirs et comment cette colonisation elle ne se fait pas uniquement par des Français blancs qui viendraient s'installer ici en Afrique occidentale française, mais que c'est tout de suite un lieu de rencontre au fond, ce développement du commerce.
Ah oui, parce que à l'époque aussi, pour que des Européens s'installent ici, on n'a pas encore vaincu le paludisme. Et donc, il vaut mieux s'appuyer sur les traitants qui ramènent des esclaves de la gomme, de l'or, et tous les produits de traite, les produits du cru. Donc, il n'y a pas beaucoup d'Européens, sinon ils sont à Saint-Louis et ont besoin des Africaines qui s'en occupent. C'est décrit par toute la littérature, ces Africaines qu'on va appeler des signards mariés à la mode du pays, à des Européens qui s'installent à Saint-Louis mais qui ne s'aventurent pas à l'intérieur du continent. Et tant qu'on n'a pas trouvé la quinine, la colonisation est faite par leurs agents qui sont beaucoup mieux accommodé au climat et aux risques pathologiques de la région.
Qu'est-ce que vous voulez dire très clairement quand vous dites la colonisation est sous-traitée par des agents, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que Saint-Louis, c'est une ville coloniale. Quand je dis une ville coloniale, par ici, j'entends que les Européens et les Africains s'y retrouvent et co-construisent la ville. Et dans le processus de co-construction, ils acquièrent des esclaves.
Éric Sylvestre, vous nous accueillez dans votre auberge du Técrour, où vous avez constitué ce petit musée qui nous permet de comprendre en fait comment ça se passait entre Saint-Louis et Podor, justement, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Pourquoi votre auberge s'appelle l'auberge du Técrour ?
D'abord, quand on est arrivé, on a été séduit par cette maison, qui n'avait pas de nom. C'est plus tard qu'on lui a donné le nom de maison Guillaume Foy, qui est donc le nom du fondateur de la maison en 1860, lui qui était déjà un métis, donc de père arrivé fin 18e sans doute, et métissé comme l'ont fait les Devès. Et nous, on a trouvé dans cette maison une telle dimension culturelle qu'on s'est dit, il faut qu'on travaille sur ses origines, sur le commerce du fleuve. Donc, auberge du Técrour, c'était important parce que Maison Guillaume Foy, c'est plus une adresse. Et le Técrour, c'est le royaume des tout couleurs. Donc voilà, on a eu envie de donner un nom plus expressif, disons, par rapport à l'histoire de la région, dont la capitale se serait appelée Tokoror. Il y a des gens qui disent que Tokoror aurait donné le nom Técrour, mais en même temps, cette ville a disparu.
Une image nous accroche là avant de ressortir de l'auberge du Técrour. Ibrahim Atioub.
Oui, d'accord, là c'est le Bou El Mogdad. C'est le nom du bateau qui fait la croisière sur le fleuve Sénégal, dénommé à partir d'un lettré musulman qui a vécu à Saint-Louis et travaillé au niveau de l'administration. Et qui avait en charge la rédaction des lettres en arabe ou les traductions du courrier en arabe. Et il a également travaillé au niveau du tribunal musulman. Mais ce qu'il faut également savoir, c'est que ce sont des sheikhs. leur nom véritable patronyme, c'est Bou El Mogdad Seck.
Bonjour Valérie, je suis le bienvenu à bord. C'est le commandant Boudjabi.
Merci beaucoup. Vous-même, capitaine, vous êtes originaire de quel village ?
C'est natif de Casamance. Et c'est le capitaine de ce bateau qui est le Bou El Mogdad, qui navigue sur le fleuve depuis des années et des années. On va naviguer en descendant le fleuve avec différentes escales. Et on sera le jeudi à Saint-Louis.
Aujourd'hui, le bateau est un bateau de croisière. Mais dans les années 50, à quoi servait ce bateau ?
Non, ce bateau, au départ, quand il est venu, c'était un cargo mixte qui transporte à la fois les gens et la marchandise. Et depuis lors, il a toujours fait ce travail.
Lorsqu'on navigue sur le fleuve Sénégal, capitaine, c'est aussi toute l'histoire du Sénégal qui défile. Vous avez parlé du commerce dans les années 50. Et bien avant cela, on pense au commerce également des esclaves.
Le transport d'esclaves, le transport de marchandises, le transport de personnel. Et le bateau est resté jusqu'à présent un bateau mythique. C'est qu'à chaque fois qu'on passe dans un village, c'est comme si le bateau venait de passer pour la première fois. Les enfants, quand ils parlent du bateau, c'est comme si c'était une personne. Et ils lui montrent du doigt. Et Bouel, quand je traverse ces villages, quand je vois ces gens, que ce soit adultes ou enfants, parler du bateau comme si c'était leur frère, leur grand frère, leur papa. Et à chaque fois qu'on passe et repasse, c'est toujours le même enthousiasme. C'est quelque chose qu'ils ont dans l'âme. Malgré que, il est là depuis 1950, on pourrait s'enlacer. Mais non, à chaque fois, chaque passage, c'est comme si le bateau venait de naître aujourd'hui.
Merci beaucoup, capitaine. Je vous en prie. Le Bou El Mogdad a quitté le port de Pau d'Or, Ibrahima Tioub, et donc nous descendons le cours du fleuve Sénégal. Qu'est-ce que vous ressentez ?
Là, nous avons pris la direction amont du fleuve avec le Bou El Mogdad qui va partir sur Saint-Louis. Et c'est ma première fois sur un navire et donc de faire ce passage sur le fleuve qui a été des milliers et des milliers de fois fait pendant ces siècles derniers. Et je pense juste en regardant à droite, c'est le Sénégal, et quand je regarde au loin sur ma gauche, j'aperçois la Mauritanie. Donc la colonisation en a fait un espace frontalier, alors que avant la colonisation, c'est une continuité culturelle, une continuité politique, une continuité anthropologique très forte. Et on a tendance à oublier ces continuités au bénéfice de la discontinuité introduite par l'ordre colonial et peut-être même antérieurement à l'ordre colonial, les discontinuités introduites par la traite avec la constitution des micro-États qui se sont substitués au grand empire du Djolof. Et donc, nous sommes dans le Fouta, la moyenne vallée du Sénégal, et nous nous dirigeons vers l'embouchure, le Wallo, le pays amphibie. Donc on a cette sensation du liquide, l'eau qui joue un rôle extrêmement important dans l'imaginaire politique, social. Ici, tous les génies sont des génies d'eau. Et nous allons vers le pays du génie d'eau qui s'appelle Mam Koumbalam.
Depuis le bateau remis en service par Jean-Jacques Bancal, une personnalité métisse et entreprenante de Saint-Louis, le spectacle des deux rives défile sous nos yeux. Les sacs d'oignons empilés près des filets de pêcheurs, les caissons de tomates fraîches au milieu desquels les lingères s'interpellent, et au loin, de jeunes bergers conduisant leurs moutons, leurs bœufs. Un paysage traversé au siècle dernier par le grand-père d'Ibrahim Atioub.
Ce qui se raconte dans les mémoires de la famille, c'est que mon grand-père a quitté le Gandiol en 1892, région située à l'embouchure du fleuve Sénégal, donc en aval de Saint-Louis. Ce départ en exil dans les mémoires de la famille est lié à un conflit qui n'est pas décrypté dans les mémoires.
Alors j'imagine, Ibrahim Atioub, en bon historien que vous êtes, que vous vous posez la question, pourquoi votre grand-père est parti, et que vous avez fait des hypothèses.
Oui, bon, j'ai fait des hypothèses puisque à l'époque, il faut se souvenir que l'esclavage est aboli dans la colonie du Sénégal, et le décret d'abolition dit à son article 7 que tout individu qui touche le sol français devient libre. La colonie est en pleine constitution. L'administration coloniale développe une politique ambiguë quant à l'application de cette loi abolitionniste. Beaucoup de populations quittent les environs de Saint-Louis pour aller vers d'autres terres pour éviter de perdre leurs esclaves. On peut supposer, puisque dans les mémoires de la famille, il se raconte qu'à l'arrivée à Malikounda, à la fondation de Tchouben, mon grand-père a eu à soumettre une de ses esclaves à une punition très sévère, puisqu'elle était allée demander du sel dans le voisinage. Et pour quelqu'un qui vient du Gandiol, le pays de sel, il était humiliant d'aller demander du sel, ce qui peut être à l'origine de cette sévère punition qui a été retenue dans les mémoires de la famille.
Mais ce que ça veut dire aussi, Ibrahim Atioub, c'est que votre grand-père donc avait au moins une esclave.
Oui, mon grand-père, c'était un patriarche qui avait beaucoup de monde à sa suite quand il quitte le Gandiol. Et dans cette suite, il y a des esclaves qu'il a dû utiliser au Gandiol dans l'agriculture ou la récolte de sel ou toute autre activité génératrice de revenus. La politique ambiguë de la colonie en matière de mise en œuvre de la loi abolitionniste permet aux propriétaires d'esclaves aussi de manœuvrer. On est dans une situation poreuse entre l'esclavage, la liberté, le travail forcé. Il y a des zones grises par rapport à la liberté. Le travail libre n'est pas la forme la plus prisée ni la forme la plus utilisée. C'est les différentes variantes du
travail non libre, que ce soit travail forcé ou travail servile, qui est utilisé, y compris dans l'expansion de l'économie arachidière, qui est vraiment le cœur, le pilier de la colonie du Sénégal.
Ibrahima Tioub, je me rends compte en écoutant le récit de votre histoire familiale et en écoutant l'analyse que vous faites de la migration de votre grand-père du Gandiol, donc des environs de Saint-Louis du Sénégal, porte de la colonisation, vers le village de Malikunda, qui lui se situe tout près de Mbour, sur la petite côte. En vous écoutant, je me rends compte que votre intérêt de chercheur, d'historien pour l'esclavage croise aussi votre histoire familiale. À quel moment de votre vie d'historien vous êtes-vous intéressé à l'esclavage ?
En fait, j'ai consacré plus de 10 ans de recherche à l'histoire des prisons, à l'histoire de l'enfermement en Afrique, puisque je m'intéressais au contrôle colonial. Contrôle des personnes, contrôle des idées, contrôle des armes, la censure, la pratique de l'enfermement colonial ne s'inscrivait pas dans l'approche foucauldienne de Michel Foucault de la modernisation de la prison et de l'enfermement en Europe, que ce n'était pas le même phénomène qui allait advenir dans les colonies.
Donc vous avez commencé par travailler sur la question de la prison, sur la question de l'enfermement, et vous qui avez une réputation de citoyen et de chercheur, iconoclaste, j'aimerais que l'on revienne sur cette année 2001, où en quelque sorte vous avez fait scandale à Bamako.
En fait, c'est à l'occasion du congrès de l'Association des historiens africains, oui. L'appel à communication avait été lancé sur histoire africaine et mondialisation. Donc, l'appel m'a trouvé à Boston. Et en réfléchissant à partir de ce que je voyais au quotidien dans cette ville américaine, des relations raciales qui ne m'étaient pas très familières, aussi bien en Europe qu'en Afrique, ça m'a amené à m'interroger sur la façon dont on écrivait l'histoire de l'esclavage et l'histoire de la traite des captifs chez les historiens africains. Et comme ça, tout naïvement, j'ai décidé de présenter une communication sur l'écriture de l'histoire de la traite et de l'esclavage chez les historiens africains. Et je me suis mis à lire l'abondante littérature consacrée à la traite atlantique des esclaves, à la traite transsaharienne, traite de l'océan Indien, à l'esclavage en Afrique par les historiens africains et par les historiens des autres continents. Et quand j'ai fait ma présentation à Bamako, j'avais été très surpris par la réception de ma communication par les historiens africains qui étaient présents à l'amphithéâtre où je faisais la présentation.
Pourquoi ?
Je crois très naïvement, j'ai considéré la traite atlantique des esclaves comme l'esclavage, comme des sujets inodores, incolores et sans saveur, comme n'importe quel autre sujet d'histoire. Et je l'ai appliqué à la méthode historienne qui m'avait été apprise à l'université par mes maîtres qui étaient du reste présents dans la salle. Et en disant simplement que j'estimais qu'au XVIIe siècle, il n'y a pas une puissance européenne ou en tout cas des commerçants européens capables de pénétrer à l'intérieur du continent, de prendre des esclaves, de rasier des esclaves, de les amener sur la côte pour les expédier au Mississippi. Et que l'approche qui a été souvent privilégiée d'aborder la question de la traite au moment de la rencontre entre les vendeurs d'esclaves et les acheteurs d'esclaves sur la côte ne suffisait pas pour comprendre le phénomène. J'avais également remarqué que les historiens africains avaient beaucoup plus travaillé sur la traite atlantique
et avait laissé l'esclavage interne aux sociétés africaines, aux historiens européens, nord-américains. J'avais également remarqué que chez beaucoup d'historiens, mais surtout dans l'opinion publique, quand vous dites « je travaille sur l'esclavage », on pense que vous travaillez sur la traite atlantique des esclaves.
Donc sur le commerce triangulaire.
Oui, sur le commerce triangulaire. Donc il y a une confusion entre esclavage, système connu de tous les continents et de tous les temps, avec la traite atlantique des esclaves qu'on dénomme traite des Noirs en épousant la racialisation qui est propre à cette traite atlantique, mais qu'on retrouve également dans la traite transsaharienne. Donc cette présentation des choses avait suscité une réaction quelque peu violente. C'était pour moi une douche froide. Et je me suis demandé, faut-il arrêter de faire des recherches sur la traite et l'esclavage et continuer sur mes prisons? Alors que moi, ce que je disais me semblait assez simple, c'est de dire simplement que les Africains n'ont pas subi cette histoire de façon amorphe, sans agenda, et que les Européens, c'est vrai, sont à l'initiative du développement du commerce triangulaire. C'est le capitalisme mercantile de l'Europe qui en prend l'initiative à partir de la péninsule ibérique, principalement Portugal, suivi plus tard par les autres puissances atlantiques européennes, mais que les sociétés africaines différenciées, hiérarchisées avec des États, les différents segments ont répondu de façon différente, avec des agendas différents, avec des intérêts différents, et que la catégorie de noirs dans laquelle on enferme les acteurs africains ne permet pas de voir cette différenciation. Cela me semblait tomber sous le coup des sens. Si toute l'Afrique avait été victime de la traite, tous les Africains n'étaient pas exposés de façon égale au ravage de la traite. Il y en a qui en ont profité, et donc ce sont les communautés paysannes qui ont été les principales victimes, et que l'approche victimaire qui est développée par l'historiographie et qui englobe tous les Africains dans la catégorie chromatique de noir suit l'idéologie esclavagiste du mercantilisme européen qui racialise cette domination et ce commerce de captifs, et que donc il était intéressant de développer une autre approche beaucoup plus différenciée qui ne réduit pas les Africains à la couleur de leur peau, mais retrouve leur agenda, leur historicité, puisque en les réduisant à la couleur de la peau, on naturalise une relation historique, et cette naturalisation perpétue la domination. Un peu partout sur la côte atlantique de l'Afrique, des États se sont formés à la faveur même de la traite et ont été impliqués dans la traite. Ils ont réorganisé leur appareil de domination, en particulier en se militarisant. Ces groupes qu'on appelle ici en Sénégambie, particulièrement dans le nord, les Tchédo, que les musulmans identifient comme grands buveurs d'alcool, qui ont besoin des produits européens qui arrivent sur la côte, tissus, fusils, chevaux, alcool. Pour y accéder, il faut répondre à la demande européenne en captifs destinés à l'Amérique. Une fois capturés les membres des communautés paysannes, ils sont confiés à des groupes de marchands africains qui les acheminent vers la côte et vont les vendre aux Européens et reçoivent en contrepartie les produits de traite apportés par le commerce européen et dont l'État, les souverains, l'aristocratie a besoin pour construire son propre pouvoir dans les États africains qui participent à la traite.
Au même moment, il faut le souligner, ces communautés paysannes vont développer des systèmes d'autodéfense. Et pour la Sénégambie, ils vont s'adosser principalement à l'islam pour organiser la résistance. Et dès le XVIIe siècle, un jeune berbère originaire de la Mauritanie, donc non loin d'ici, lance un mouvement qui s'appelle mouvement Toubnan. Renoncer à la consommation d'alcool, puisque l'alcool jouait un rôle, les boissons alcoolisées jouaient un rôle très important comme aiguillon des militaires et de l'aristocratie pour la capture des esclaves. Rompre cette relation permettait de combattre la traite des captifs. Donc ces jeunes vont adresser un discours radical à la population en disant « Dieu ne vous a pas donné des rois pour qu'ils vous vendent. L'État est destiné à vous protéger. » Ce discours devient très populaire auprès des communautés paysannes. Jusqu'ici, l'islam était un islam de cour, un islam de l'aristocratie. On assiste à une inversion. L'islam devient populaire et devient une arme de défense contre la captivité. Et donc, ce mouvement Toubnan s'empare des pouvoirs dans tout le nord de la Sénégambie, dans le Kayor, le Wallo, le Fouta, le Djolof, partout s'instaurent des régimes théocratiques musulmans et l'aristocratie militarisée vaincue va avoir l'appui de la compagnie du Sénégal qui est basée à Saint-Louis pour reprendre le pouvoir. Ils vont recevoir des armes et un soutien conséquent du commerce européen et dans cette lutte, le mouvement anti-esclavagiste du Toubnan va être vaincu en 4 ans et beaucoup d'entre eux vont être expédiés en Amérique comme captifs. Et ceux qui échappent essaiment dans toute la Sénégambie où ils créent des foyers religieux qui seront les porteurs des révolutions musulmanes du 18e siècle.
Nous sommes sur le fleuve Sénégal, non loin de Pau d'Or, en direction donc de la Mauritanie. Ibrahim Mathieu, ces foyers de résistance à la vente des paysans par les marchands africains pour le colonisateur, ça se passe autour de nous à l'époque.
Oui, le mouvement est venu de la Mauritanie, du pays berbère. Ce sont les tribus Zouaïa islamisées qui, au sein de ces tribus, se développe ce mouvement réformateur musulman non loin d'ici et qui déferle sur la vallée du fleuve avant d'aller plus loin dans le sud vers le Djolof, le Kayor et qui conquiert toute cette région. Et pendant 4 ans, la traite ne fonctionne plus puisque les nouveaux pouvoirs qui se mettent en place sont opposés à la traite aussi bien dans la vallée qu'à l'intérieur du nord de la Sénégambie. Il faut savoir que ce mouvement va être vite défait. La traite va reprendre de plus belle et avec une croissance exponentielle des chiffres. On est en 1677 et ce mouvement va semer une graine liée à l'éducation. L'éducation islamique se met en place des écoles un peu partout en Sénégambie avec des foyers religieux qui sont capables de se protéger contre les rasiers d'esclaves, en particulier dans le Ndiambour, vers le sud de Saint-Louis. Et ces communautés musulmanes permettent une circulation du savoir, une circulation des étudiants et créent une solidarité transethnique, une solidarité translinguistique, puisque les élèves font une pérégrination propédeutique d'apprentissage dans toute la Sénégambie. Et au XVIIIe siècle, ce sont ces élèves formés dans ces écoles, dans ces centres et foyers religieux qui vont développer les djihads anti-esclavagistes du XVIIIe siècle. Et on est au cœur du pays où va se développer l'une des révolutions les plus radicales contre la traite et particulièrement la traite des musulmans. C'est la révolution Torodo conduite par Tierno Souleymane Ball qui est le leader qui va interdire la traite sur le fleuve Sénégal pendant des années. Thank you.
ke wali nyuma baba ampapa mali bi fola bi wali wali nyuma baba ampapa mali bi fola bi wali nyuma kalajo.
Ibrahim Matioub, cela fait maintenant plus de 15 ans que vous travaillez sur l'esclavage et vos nombreux travaux ont pu montrer que vos intuitions étaient justes. Néanmoins, à l'époque à Bamako, en 2001, vous faites l'effet d'une bombe.
Oui, en 2001, j'ai eu droit à mon 11 septembre parce que ça coïncidait juste que c'était le 11 septembre de 2001. C'était pour moi une douche froide. Et je ne l'ai pas regretté pour une raison très simple. C'est que je continue de penser que ce qui plombe véritablement les sociétés africaines et qui les amène souvent à revivre la même histoire, qu'on retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'amertume en Libye, c'est que là, on le dit souvent, l'histoire éclaire le présent. Mais ici, c'est notre présent qui éclaire le passé. On le sait bien, ceux qui sont vendus en Libye ne sont ni les enfants des classes moyennes, ni les enfants des gouvernants, ni les enfants de ceux qui ont accès aux ressources d'une manière ou d'une autre. Et l'exclusion en masse des communautés paysannes les pousse encore dans l'Atlantique et en Méditerranée où ils se noient en masse. Et ça rappelle bien les mécanismes de la traite fondés sur cette différence qu'il y a entre les Africains, la hiérarchie, l'exclusion massive. Aujourd'hui encore, les élites des sociétés africaines s'emparent du peu de ressources disponibles, excluent de vastes groupes d'Africains de la jouissance de ces biens collectifs qui auraient dû servir à l'éducation et à la santé, et les poussent vers l'exil, vers la migration. Et tant que nous n'avons pas interrogé de façon lucide cette histoire en sortant des logiques victimaires pour faire face à nos responsabilités, il sera difficile d'apporter une solution. Et pourtant, nous avons dans notre histoire plusieurs pistes de solutions. Et quand on étudie l'époque de la traite, ceux qui investissent dans l'éducation, éducation islamique ici, apportent des solutions depuis Nasr al-Din en 1673, Tcherno Souleymane Ball et Abdul Qadir Khan en 1776, arrêtent systématiquement la traite sur le fleuve Sénégal. Tout individu capable de réciter le premier verset ou de prononcer la Shahada ne peut pas être considéré comme un captif et ne peut être vendu. Ces solutions qu'on ne peut pas copier aujourd'hui, puisque c'est des solutions datées qui étaient valables en leur temps et qui ont répondu efficacement aux questions de leur temps, c'est à nous contemporains de les méditer dans les confréries religieuses qui, pour ainsi dire, protègent quelque part le Sénégal contre le radicalisme islamique et les mouvements djihadistes contemporains, et à nous contemporains de réfléchir en toute responsabilité cette histoire avec l'ensemble des Africains pour apporter des solutions qui iront avec les cultures de prédation qui sont aujourd'hui pluriséculaires dans l'histoire de notre continent.
Après avoir passé plusieurs jours avec Ibrahim Matioub de l'université de Dakar jusqu'à son village natal de Malikounda, en passant par les villes de Saint-Louis ou de Podor, je m'interroge sur la façon dont l'intellectuel qu'il est peut imaginer sa vie après l'école.
Il n'y a pas pour moi de vie après l'école. C'est-à-dire que je peux être à la retraite
et mon âge m'y conduit sous peu, mais mon engagement pour l'école, c'est un engagement pour la vie. Puisque, je le disais récemment à un ami, peut-être que mon dernier combat sera un combat pour l'école de la République. Participer à côté d'autres qui y croient, peut-être même qui y croient peut-être plus que moi, cette école qui m'a fait, je voudrais lui consacrer mon énergie jusqu'à la fin de ma vie pour qu'elle retrouve son lustre d'antan. Je ne suis pas un nostalgique, mais je pense qu'il y a des efforts à faire à ce niveau pour que les enfants qui arrivent à l'école y trouvent des maîtres engagés.
Comment votre engagement pour l'école pourrait encore prendre une nouvelle forme ?
Vous savez, diriger l'université, la plus grande université d'Afrique francophone, pour moi, il n'y a pas de glorieux à en tirer. Par contre, entrer dans une salle de classe, trouver des jeunes, partager avec eux, enseigner, ça c'est très grand pour moi.
Vous pourriez encore enseigner, Ibrahim Atioub ?
Ah, je vais encore enseigner. J'enseignerai tant que j'aurai de l'énergie, que je pourrai aller dans une classe, transmettre du savoir, continuer à faire de la recherche, à m'interroger sur l'histoire de l'Afrique et à partager mon point de vue, les résultats de mes recherches avec des plus jeunes que moi, les former pour qu'ils me dépassent. Et travailler à faire avancer la réflexion historique, à faire avancer la recherche en histoire africaine et sa transmission, et particulièrement aussi sa vulgarisation. Ça, j'y contribuerai jusqu'à la fin de ma vie, tant que physiquement j'en aurai la capacité. Mais également, ça me dirait bien de contribuer à créer peut-être une université de la mer. Parce que mon école primaire, je l'ai passée en face de l'océan. Et il n'y a pas ce type d'université spécialisée encore au Sénégal, alors qu'il y a beaucoup à étudier en anthropologie des gens de la mer, la littérature de la mer, la chimie, la physique des océans, l'énergie, tout ça, c'est des domaines où l'océan est un enjeu. Les empires maritimes ont toujours dominé le monde. Donc l'Afrique doit être très consciente de ces enjeux. Donc un de mes rêves, c'est peut-être de monter ce type d'université pour y accueillir des étudiants et des étudiantes, et les former pour se mettre au service de l'Afrique. On a aussi le pétrole et le gaz dans la mer. Donc il y a beaucoup d'enjeux dans la mer. Et ça, c'est un de mes rêves. Maintenant, je ne sais pas si j'aurai les moyens de le réaliser. Mais si je ne le réalise pas physiquement, j'en ferai peut-être une œuvre d'art qu'un jour, un de mes petits-enfants réalisera. Mais surtout, l'idée aussi, ce sera de faire un peu le tour du Sénégal, de visiter les écoles et d'avoir des discussions avec les élèves, avec les enseignants, surtout à l'école primaire, pour, disons, défendre, promouvoir l'école de la République. Ça me dira bien de faire un tour du Sénégal, une caravane pour la promotion et la défense de l'école publique.
Ainsi s'achève le second épisode de notre portrait consacré à Ibrahim Atioub à l'école de la réussite. Un documentaire signé Valérie Nivelon et mis en onde par Sophie Jeannin avec la complicité de notre stagiaire Juliette Flamand. Plus d'infos et de photos sur notre page RFI.fr et Facebook. N'hésitez pas à réagir, exprimez-vous, écrivez-nous cette émission.